découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Oh, quel plaisir, quel bonheur. Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Le docteur Olivier Coudron, comme chaque semaine, et c'est reparti pour une nouvelle saison, saison 2. C'était Olivier Coudron, saison 2. Merci Olivier d'être avec nous cette année encore.
C'est un plaisir de retrouver tous les auditeurs.
Ah, vous avez brillé de mille feux au Nutri Talk Gala la saison, enfin mois de juin dernier. Hein, c'était il y a un siècle, il y a un an, il y a une éternité. Non, il y a quelques mois seulement, ça passe vite, mais voilà, on est très heureux de vous voir. Et puis, quelle éloquence, que ce soit à la radio ou sur scène, vous avez cette faculté à vous exprimer comme ça. Quel orateur vous faites ?
Ça, c'est gentil, c'est flatteur, hein, comme ça, pour un mois de septembre, c'est la rentrée. En tout cas, je prends ça avec plaisir. Si ça a pu apporter quelques éléments d'information clairs et précis, ben alors là, je suis ravi.
Bien, alors avec vous, on va parler du chocolat et des oxalates. Non, je plaisante, on va répondre aux questions des auditeurs. Parce que voyez-vous, c'est la saison 2 et il se trouve que, vous le savez, Nutri Radio, Nutri TV, on essaie de faire beaucoup. Rikiki, Mouse Costo, je ne me souviens plus de la pub. Mais en tous les cas, on est une équipe quand même assez restreinte. Donc, on a eu beaucoup de questions de votre part la saison dernière sur les émissions. On en a pris quelques-unes et pardonnez-nous de ne pas y répondre. Peut-être très rapidement, on essaie d'être le plus réactif possible, mais il y a tellement de sujets, on essaie de vous préparer tellement de choses, de vous gâter, vous voyez. Donc il y a quelques petites failles, dont la réactivité aux réponses que l'on peut recevoir. Et on va réparer ça aujourd'hui, en tout cas en partie, puisque nous allons répondre à quelques questions que nous avons sélectionnées, alors vraiment au hasard. Et on remercie tous ceux qui nous font juste des commentaires en nous disant merci, quand est-ce que vous revenez, notamment pendant les vacances. Donc on vous salue tous, mais on va répondre aujourd'hui à quelques questions. Auparavant, merci à notre partenaire, c'est toujours le même cette année. Tiens, on est bien content aussi de les avoir. Quelle fidélité, quelle efficacité, quel clean label. C'est le laboratoire Lepivitz, expert en micronutrition et nutraceutique, un laboratoire familial, une belle histoire. Et là on salue évidemment les frères Goffard qui tiennent ce labo d'une main de maître avec plus de 30 années d'expertise dans le développement et de nutraceutiques efficaces. Merci à eux. Bon, vous êtes prêts à répondre aux questions, à dire toute la vérité? Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité.
Oui, on est prêts.
Alors, c'est Annie de Nantes qui vous demande, docteur Coudron, est-ce que vous pouvez parler de l'importance d'un petit déjeuner riche en protéines pour stimuler la dopamine? Concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps le matin, quels seraient des exemples simples et rapides de repas adaptés?
Ah, très bien. Écoutez, bonjour Annie, tout d'abord. C'est une très bonne question parce que vraiment, la composition du petit déjeuner mérite qu'on lui accorde une grande attention et probablement aussi peut-être qu'on lui accorde du temps. Mais je vais me mettre dans le contexte où, pour des raisons X ou Y, ben, vous n'avez pas assez de temps. Peut-être dans l'avenir, faudra-t-il prévoir de prendre son temps parce qu'il faut dégager vraiment des fois des espaces comme ça, des moments qui sont importants pour vous, hein, pour vous, pour votre bien-être, pour votre performance. Et vous allez voir, ce sera peut-être plus utile. Mais imaginons que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps pour des tas de raisons. Qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, votre question, elle est très bien formulée. L'importance du petit déjeuner riche en protéines pour la dopamine, tout est dit. Il faut avoir des protéines. Et ça, c'est peut-être la grande erreur de beaucoup de personnes qui disposent de peu de temps et qui vont manger ce qui est là sous la main, qui n'anticipent pas. Premier conseil, donc, Annie, il faut anticiper. Vous n'avez pas de temps? Pas de problème, vous prévoyez du batch cooking, hein, vous faites déjà vos petits déjeuners à l'avance, vous prévoyez ça au réfrigérateur, et je vais vous donner quelques pistes. La première, pour moi, je crois que c'est la plus importante, essayez de trouver auprès de vous des œufs de la filière oméga-3. Les œufs oméga-3, ce sont des poules qui sont bien nourries pour elles, pour leur santé, mais aussi pour la composition nutritionnelle, parce que l'œuf va être très très riche en EPA et en DHA, un peu comme une sardine, si vous voulez, même un peu plus. Et ces oméga-3 du cerveau, ces graisses du cerveau sont très importantes. Mais l'œuf, c'est aussi vos fameuses protéines. Des protéines qui vont être très, très assimilables. L'œuf, c'est fabuleux pour cela. Et donc, ça va soutenir, en effet, l'activité de la dopamine, c'est-à-dire ce neurotransmetteur qui nous donne le peps, qui nous donne envie de faire les choses, qui nous stimule, qui nous motive le matin. Donc, je dirais, en pratique, achetez des œufs oméga-3, faites-les cuire, des œufs durs, c'est très bien. Ça conserve toutes les propriétés de l'œuf en protéines, en acides gras essentiels, en vitamines, en caroténoïdes, j'en passe, il y en a plein. Et donc, vous le mettez au réfrigérateur dans la coquille. Ça, c'est important, ça se garde un petit peu mieux. Et vous pouvez les garder quelques jours sans aucun problème. Donc, des œufs. Ces œufs, après, vous pouvez aussi les manger durs comme ça, on dirait croque au sel, ou alors les écraser, en faire une petite préparation préalable avec quelques graines, par exemple, avec un yaourt. Donc, l'œuf, c'est ma première, je vais dire ordonnance, vous voyez, Fabrice. Non, mais premier conseil. Ensuite, il y a des crêpes. Moi, je trouve ça très, très bien de faire des crêpes. Alors, des crêpes très protéinées. On met 4 œufs pour 4 cuillères à soupe de farine complète bio ou différents types de farine que vous préférez. Pas de sucre. Moi, je mets pas de sucre. Je mets du lait végétal. Et vous pouvez préparer aussi des crêpes que vous mettez au frais, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxydation. Et vous les préparez pour quelques jours. Dans vos crêpes, vous pouvez mettre aussi des purées d'amandes très riches en protéines. Vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre aussi de la truite fumée si vous faites un petit déjeuner protéiné nordique, du saumon. Voilà, essayez de trouver des produits de bonne qualité qui soient de pêche durable. Ça, c'est mieux pour la planète et mieux aussi pour votre santé. Voilà. Après, il y a toutes sortes de petites graines et grains qui peuvent être consommés si on n'a pas le temps en mettant une grosse poignée dans la poche. Les amandes, les noix, les pistaches, tous ces oléagineux sont intéressants. Moi, je suis pas très cacahuète. Je trouve que la cacahuète, c'est toujours un petit risque d'allergie. C'est pas très, très fabuleux sur le plan nutritionnel. Mais tous les autres oléagineux, Annie, ben, vous pouvez les prendre et les grignoter. Si vous n'avez pas de temps, ben, peut-être en marchant ou en vous promenant. Enfin, sur votre lieu de travail, peut-être une demi-heure après votre œuf. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités très simples, très pratiques et très efficace.
On enchaîne avec...
Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Annie. On pourrait encore en parler des heures, parce qu'il y a plein d'astuces, mais n'hésitez pas à aller sur le site MyNutriConsult ou le site de l'Institut SINE, parce que là, vous trouverez plein de recettes également pratico-pratiques.
Merci, quel professionnel. Ce docteur Olivier Coudron, je vous le dis, voilà, c'est de A à Z, il remplit toutes les cases, toutes les lettres de l'alphabet. On enchaîne avec une question de Pascal, sans œufs de Paris. Vous avez comparé le sevrage du sucre et des aliments ultra transformés à celui du tabac ou de l'alcool. Combien de temps faut-il en moyenne pour que le cerveau retrouve un fonctionnement normal et que l'envie compulsive diminue ?
Ah oui, très bonne question Pascal. Alors, en effet, je parle bien du sevrage qui est en tout point comparable à celui de l'alcool, du cannabis, du tabac, voilà. Évidemment, je ne parle pas des effets, on est dans des effets différents, bien sûr. Mais le fait d'avoir un produit auquel on est devenu un petit peu addict, c'est le cas de l'alcool, du tabac, des produits ultra transformés et notamment gras et sucrés, bien c'est le cas, on crée une dépendance. Alors, il y a même un nom comme ça dans l'industrie agroalimentaire. C'est un nom qui me fait frémir, moi. Ça s'appelle le point de félicité. C'est sympa comme nom. Eh bien, derrière ce nom sympa, la félicité, se cache quelque chose d'assez pervers. C'est le juste dosage en sucre et en gras qui permet de devenir plus vite addict. Et les industriels connaissent très bien la quantité de sel, de sucre et de gras qui va nous en rendre accro. Alors, ces aliments ultra transformés, c'est vrai que c'est une plaie. C'est associé à énormément de pathologies aujourd'hui. C'est vraiment dans la ligne de mire des nutritionnistes, des micronutritionnistes. Alors, ceci étant dit, combien de temps faut-il en moyenne? Alors, il y a 3 étapes, Pascal. La première étape qui va durer entre 2 jours et 15 jours. Alors, c'est variable, mais c'est parce que chacun d'entre nous, on a des circuits de neurones qui sont très personnels. Certains vont plus vite se désaccoutumer dans cette phase de véritablement sevrage. D'autres, ça sera un peu plus long. Donc, on va dire entre 2 jours et 15 jours. Là, c'est critique. Et là, ce qui se passe, c'est que notre cerveau a tellement l'habitude de se doper avec le sucre, avec les produits transformés, que quand on arrête, quand on diminue beaucoup, eh bien, on a un syndrome de manque. On va avoir besoin de dopamine. Donc, ce qu'il faut dans cette première période, de, on va dire une dizaine de jours, stimuler la dopamine. On vient de parler du petit déjeuner, mais on peut prendre aussi des acides aminés comme la L-tyrosine. On peut prendre des plantes comme la rhodiole qui vont stimuler la dopamine. On peut s'exposer à la luminothérapie, à la lumière, pendant 30 minutes le matin. Pendant 15 jours, ça va vraiment éviter le sevrage. Ça va vous permettre de passer ce cap de 2, 3, 4, 8, 10 jours facilement. Ensuite, Pascal, on va avoir une deuxième phase qui est la phase de rééquilibrage des neurotransmetteurs. On sera moins dans le manque, il y aura moins ce syndrome de manque qui est très désagréable, hein, qui donne vraiment envie d'y retourner. Et on va mettre en place, en remplacement finalement, de nouvelles habitudes. Et là, Fabrice, ça va durer à nouveau 15 jours à 3 semaines. Cette période, on doit vraiment en prendre soin à travers des nouvelles habitudes de vie. Se coucher tôt, dormir suffisamment, s'exposer à la lumière, gérer son stress, par exemple par des méthodes de relaxation ou de cohérence cardiaque. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ces nouvelles habitudes qui remplacent les anciennes, elles vont s'ancrer dans le cerveau si on a une hygiène de vie plus favorable pendant ces 3-4 semaines qui viennent. Donc là, c'est très important de faire cette stratégie de lifestyle, de mode de vie pour consolider ces nouvelles habitudes. Et au bout de, on va dire un mois, l'habitude compulsive diminue. Mais, dans la question de Pascal, il y a cette notion de comment faire pour que l'envie compulsive diminue. Donc l'envie compulsive, c'est pas l'addiction, c'est deux choses différentes. L'addiction, c'est la dopamine, on en a parlé tout à l'heure. Mais après un mois, on peut avoir à nouveau des envies de compulsion. Et la compulsion, c'est-à-dire l'envie irrésistible qui en général survient dans l'après-midi, à partir de 17h jusque dans la soirée, cette envie un petit peu irrésistible d'aller vers le sucre, d'aller vers l'alcool, vers le petit verre, vers le vin, vers le sucré gras. Il y a cette compulsion, ce n'est pas la dopamine, Pascal, c'est la sérotonine. Alors là, chacun d'entre nous, on peut avoir des sérotonines qui marchent très bien ou très mal, c'est un peu génétique. Et une bonne façon de baisser cette compulsion, d'en prendre soin, c'est de prendre à partir de 5h des fruits frais de saison, des fruits durables, bio si possible, quelques noisettes, des amandes, 2, 3, 4 carrés de chocolat noir. Et même si on a beaucoup dit de mal du chocolat noir avec le cadmium, je vous invite à prendre du chocolat noir, 3, 4 carreaux, venant plutôt d'Afrique où il y a beaucoup moins de cadmium, donc faut quand même dédramatiser cette histoire. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans l'après-midi, ce fruit sec, ce chocolat, va augmenter votre sérotonine dans le cerveau et vous serez moins compulsif. Donc, ça va solidifier, consolider votre nouvelle habitude. Voilà, Pascal. Voilà, Fabrice.
Merci beaucoup, mon cher Olivier Remarquin. Pause et on se retrouve dans un instant pour la suite des questions auditeurs destinées à Olivier Coudron.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clinabel aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
La suite des questions auditeurs adressées à Olivier Coudron aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour la reprise. Question de Anne d'ailleurs de Paris qui vous dit, Olivier, vous avez évoqué le rôle du magnésium dans l'équilibre entre GABA et glutamate. Quel type de sel de magnésium sont les mieux assimilés et donc les plus intéressants en complémentation selon vous ?
Alors, très bonne question de Anne qui revient fréquemment, et pas seulement pour l'effet du magnésium sur le cerveau et le GABA, le glutamate, mais de façon générale. C'est vrai que le magnésium, on en manque presque tous, hein, pour pas dire tout le monde. Et c'est intéressant d'augmenter l'apport de magnésium dans l'assiette, mais aussi sous forme de compléments alimentaires. Alors déjà, première remarque, en effet, tous les sels de magnésium ne sont pas équivalents. Au niveau de la tolérance intestinale, d'une part, hein, certains sels, des sels minéraux, notamment les oxydes, les chlorures, hein, le sel de magnésium marin, c'est des chlorures et des oxydes. Donc tout ça n'est pas très bien assimilé. se retrouvent dans l'intestin et créent des inconforts, des selles molles, des diarrhées parfois. Donc, en effet, mieux vaut choisir des selles qu'on appelle organiques, non pas minéraux, comme les oxydes ou les chlorures, mais organiques, donc associées à des molécules organiques. Le plus fréquemment, pour augmenter à la fois le confort intestinal, la tolérance, mais aussi l'efficacité. Et l'efficacité, c'est entre autres l'assimilation, hein, c'est ce que disait Anne. Eh bien, on va se tourner vers des acides aminés. Moi, ce que je trouve le plus pertinent, le plus efficace, le bien toléré, ce sont les bisglycinates. Alors, les bisglycinates, comme leur nom l'indique, si on devine un peu, c'est deux acides aminés de glycine. La glycine, c'est un acide aminé intéressant. Déjà, Anne, cette glycine, elle n'est pas apportée en grande quantité dans les compléments alimentaires, mais elle va jouer un rôle plutôt favorable sur le GABA et le glutamate. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais surtout, le biglycinate de magnésium est très bien assimilé, très bien absorbé, et il a une bonne biodisponibilité, c'est-à-dire qu'il va être efficace aussi dans certains tissus. Là, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau, donc il va bien aller dans le cerveau. Alors, on a donc en priorité, je dirais, le bisglycinate de magnésium, en veillant toujours à ce que ça apporte la bonne quantité de magnésium élémentaire, c'est-à-dire ici, on va dire à peu près 200 mg de magnésium, d'atomes de magnésium élémentaire. Après, il y a vraiment deux autres produits qui peuvent être aussi conseillés, qui sont très bien absorbés et qui passent vraiment dans le cerveau, hein, c'est à travers la barrière hémato-encéphalique, c'est le tréonate de magnésium. Alors, c'est un peu plus cher. Nous, on l'utilise en neuronutrition quand on veut vraiment avoir un impact rapide, par exemple sur l'anxiété, sur des troubles anxieux généralisés. Le tréonate, le L-tréonate de magnésium, donc c'est surtout connu parce qu'il passe bien la barrière. Et puis, il y en a un autre que j'aime bien, qu'on a mis au point déjà il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, ça me rajeunit pas, ça, avec mon ancien collègue et ami, le professeur Rapin, c'est le taurinate. Alors, c'est l'acide aminé taurine. Et on a développé, en fait, se sont développés des acétyltaurinates de magnésium. Désolé des barbares et du jargon scientifique, mais l'acétyltaurinate, c'est un sel de magnésium avec une sorte de locomotive qui va amener le magnésium dans le cerveau de façon efficace. Voilà, je dirais que ces trois sels sont intéressants. Bisglycinate, très fréquemment répandu, pas trop cher. Tréonate de magnésium et acétyltaurinate de magnésium. Un peu les Rolls-Royce, mais plutôt à réserver à des effets très ciblés lorsqu'on veut vraiment, vraiment avoir une efficacité au must.
Est-ce que vous avez entendu parler du glycérophosphate ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah oui, oui, Fabrice, je croyais que vous parliez à l'auditeur et à l'auditrice. Glycérophosphate, c'est très bien. C'est un peu intermédiaire entre les citrates et les bisglycinates. Donc, bonne tolérance, très bonne tolérance dans les essais cliniques au niveau de l'intestin. Bonne assimilation, très bonne assimilation digestive et intestinale. Mais je donne le petit détail, c'est cette biodisponibilité pour la barrière hémato-encéphalique. Voilà. Il n'est pas connu comme étant le plus vecteur. C'est pas le meilleur vecteur pour aller vers le cerveau, mais ça marche très très bien. Hein. Faut pas discréditer le bisglycinate. Même moi, il m'arrive fréquemment de conseiller même les citrates qui sont bien solubles, qui sont intéressants parce que les citrates permettent aussi d'équilibrer un petit peu l'acidose métabolique, l'équilibre acide-base dans l'organisme. Donc c'est un sel qui n'est pas non plus très très bien connu pour aller vers le cerveau, pour vectoriser, cibler le cerveau, mais ça marche bien. Donc, il faut pas être dogmatique. Je pense qu'il y a beaucoup de bons sels de magnésium. Le critère, c'est la tolérance de l'intestin, hein, le sel molle. Et puis après, si on veut aller vers la performance, oui, peut-être bisglycinate et, comme je disais, les tréonates, par exemple.
On va faire une autre question. Comme quoi, vous voyez, il y en a beaucoup des questions. Et si on faisait des émissions spéciales réponses chaque semaine, on consacrerait, je peux vous dire, une saison. Donc, on va en prendre une autre. Et la semaine prochaine, soit on continue, soit on passera à un autre sujet et on continuera la semaine d'après. Mais on y reviendra régulièrement, quoi qu'il en soit. Et donc, Jennifer, par exemple, de Royan, qui vous dit, mon cher Olivier, vous insistez sur l'alimentation limitée dans le temps, avec le fameux 12-12 ou parfois plus long. Pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, pardon, je ne dis n'importe quoi, comme quoi les virgules sont importantes. Vous insistez sur l'alimentation limitée dans le temps avec le fameux 12-12 ou parfois plus long. Pour les personnes qui travaillent en horaire décalé,
Fabrice, c'est ça, les horaires décalés, Fabrice. On voit très bien de quoi vous parlez. Mais non, mais en fait, c'est parce vous êtes couché tard, levé trop tôt.
Elle a mis un point. Non, mais en fait, elle a mis un point quelque part. Donc moi, je lis le point, mais le point n'est pas adapté à la ponctuation de ma phrase. Donc en gros, elle dit que elle travaille, qu'elle est infirmière. Voilà. Elle fait, or, je suis infirmière et je travaille souvent la nuit. Et vous, vous insistez sur l'alimentation limitée dans le temps avec le fameux 12-12, parfois plus long. Donc comment adapter ce principe sans déséquilibrer son organisme? Ah, Jennifer, mettez les points sur les i, les barres sur les t quand même.
Jennifer, bonjour. Moi, je vous en veux pas parce qu'en effet, quand on est horaire décalé, parfois, on met des points là où il faut pas. Non, je rigole. Alors, c'est une bonne question. Déjà, en effet, c'est important de respecter au moins une balance 12-12, donc 12 heures durant lesquelles on va manger, et c'est la période active pour la plupart d'entre nous, et 12 heures de jeûne dans lesquelles on ne grignote pas, on ne mange pas la nuit, on laisse le jeûne s'installer. Le jeûne, c'est très important dans la vie pour le métabolisme et pour le cerveau. Donc 12-12, c'est un peu la base. Et en effet, parfois, on peut, on dirait, conseiller ou prescrire des périodes plus limitées dans le temps. Donc manger non pas sur 12 heures, mais sur 10 heures, 9 heures, 8 heures, parfois même dans les lorsqu'on va être encore plus impactant. Que se passe-t-il lorsqu'on travaille la nuit? Et c'est le cas de nombreuses infirmières ou infirmiers de travail de nuit ou d'autres métiers. Eh bien, on a une inversion complète. Exactement, c'est exactement la même chose. C'est très simple, Jennifer. Durant vos périodes d'activité, donc pour vous, c'est la nuit que vous travaillez, durant les périodes d'activité, eh bien, vous allez respecter cette période d'alimentation. On va dire 10 heures, 11 heures, 12 heures maximum, comme je viens de le dire, durant votre période d'activité nocturne. Et dès que vous allez quitter votre travail à l'hôpital, par exemple, eh bien, vous allez rentrer dans votre période de jeûne, puis de repos. Alors pour vous, ça sera évidemment dans la matinée, dans le début de l'après-midi. Donc, c'est exactement la même chose, simplement c'est transposé sur l'activité nocturne. Alors, il y a quand même quelques petites adaptations qu'on conseille, c'est d'avoir des repas plutôt chauds, parce que la nuit, qu'on le veuille ou non, vous allez vous adapter, Jennifer, je suis sûr que vous le faites déjà, mais néanmoins, c'est bien d'avoir plutôt de la chaleur pour maintenir la température. On va avoir spontanément tendance à baisser notre température corporelle durant la nuit, c'est normal. Et donc, l'alimentation tiède, chauffée, plutôt qu'une alimentation froide, ça peut aussi vous aider. Ça, c'est un petit truc. Et là où c'est plus délicat pour vous, je pense, ce sont les périodes de transition. Par exemple, 2-3 journées de repos. Là, c'est toujours délicat parce que vous allez rebasculer spontanément vers une vie sociale, je suppose. Donc, essayez de vous recaler un petit peu. Et c'est dans cette période de transition entre deux semaines de travail nocturne, par exemple, eh bien que moi, je conseille de se resynchroniser au mieux. Alors, ça veut dire quoi? Simplement deux conseils efficaces. Le premier, dans la matinée, on va dire dans la période d'activité de week-end, par exemple, donc notre journée habituelle pour nous tous, eh bien, vous allez vous exposer à la lumière vive le matin, une lumière de 10 000 lux, hein, donc vous trouvez ça un peu partout maintenant, des appareils homologués, 10 000 lux pendant 30 minutes pour vraiment booster votre resynchronisation de la journée qui commence. Et le soir, bah, vous n'aurez peut-être pas envie de dormir, et c'est là que je conseille de prendre de la mélatonine. Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin, parce qu'il y a quelques très rares contre-indications, mais s'il n'y en a pas, vraiment, prenez de la mélatonine, 2 mg de mélatonine, une demi-heure avant de dormir, pour vous resynchroniser, ou même un petit peu moins, il y a des mélatonines en spray, par voie buccale, qui suffisent à remettre les pendules à l'heure.
Alors, on rappelle que, évidemment, ça, il ne s'agit pas de médicaments, on parle de complémentation, et donc Pollux.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Merci beaucoup Olivier, on va se retrouver la semaine prochaine.
Avec un grand plaisir, on pourra continuer en effet les questions d'auditeurs. C'est intéressant, ça nous permet d'avoir un peu de lien avec vous toutes et vous tous, et je trouve ça très agréable.
Et vous avez bien raison. Donc la semaine prochaine, on continuera les questions, les réponses surtout à vos questions par le docteur Olivier Coudron, et vous retrouvez cette émission en podcast tout de suite là sur le site nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Olivier.
Au revoir.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.